Sous l'emprise du lien.
Sous l'emprise du lien, vous êtes proposé par des étudiants en L3 Infocom à l'EGCAM.
Bienvenue dans Sous l'emprise du lien. Nous sommes Marie-Amélie, Jana, Abdou et Mine. Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons une deuxième fois Didier Pachou qui a accepté de répondre à des questions afin d'aller plus en profondeur sur le sujet des sectes.
Pensez-vous qu'Internet et les réseaux sociaux favorisent la diffusion des sectes ?
Ah, ça, c'est une très très bonne question. C'est une question qui nous mobilise à fond, à tel point qu'on organise en ce moment un concours national de court-métrage sur les dérives sectaires. Donc on donne plus de 40 prix, hein, allant jusqu'à 3000 euros. Donc il suffit d'aller sur notre site, gympi.org, et tout le monde peut y participer, et avant le 31 mai hein, quand même. Et donc alors des très courts-métrages, hein, de 1 à 3 minutes ou 1 à 13 minutes. Donc c'est le champ de bataille. Maintenant, il est là. Il est essentiellement sur Internet. Moi, j'ai observé au fil des années qu'il y a 30 ou 40 ans, hein, quand on a commencé, il y avait des affiches partout. Alors, chaque secte qui passait collait ses affiches, etc. Là, maintenant, plus rien. Ou c'est extrêmement rare qu'il y ait des affiches collées. Par contre, tout se passe sur les réseaux sociaux. Elles y sont toutes. Toutes sans exception. Et alors, plus encore depuis le Covid, parce que maintenant, chacun peut créer sa secte chez soi, en se faisant son petit réseau social, sa petite chaîne YouTube, ses petits enseignements, parce que par le Covid, les gens se sont familiarisés aux visioconférences. Donc il n'y avait plus besoin de louer une salle, de coller des affiches, on fait tout sur Internet. En plus, même si on est d'une ignorance crasse, alors ça date encore du Covid, juste après le Covid, enfin ou pendant le Covid, soudain, il y a eu l'avènement de l'intelligence artificielle. Même quand on est un bourricot de la pire espèce, on clapote quelques trucs sur les intelligences artificielles et vous font le texte, la parole et même la vidéo. Et vous pouvez tenir votre auditoire comme ça, ça pullule sur Internet. Et c'est là vraiment quel champ de bataille. Si on veut faire la prévention, c'est là qu'il faut être. Ailleurs, on est presque plus entendu, même à la télé. On verra peut-être, oui, les générations les plus âgées, toute la jeunesse et les jeunesses jusqu'à 40-45 ans, c'est sur les réseaux sociaux. Hein.
Ouais. D'autant plus que les réseaux sont un peu voilà, une sorte de jungle. Donc, il n'y a pas forcément de canaux. C'est beaucoup plus facile de tomber dessus.
Parce que la normalité, c'est si un scientifique parle, il va être pondéré, ça ne va pas être très vendeur. Déjà parce qu'il y aura plus d'explications, ça sera plus long. C'est très difficile de vulgariser la science. Mais pour vulgariser les conneries, c'est facile. On va parler de la médecine quantique, faut traduire par médecine spirituelle. Hein. On va sortir quelques grosses ficelles énergético-hindouistes ou New Age, et c'est bon. Comme personne ne sait trop ce que c'est, mais que ça claque scientifique, et ça va regorger sur Internet. Puis les gens se régalent beaucoup plus d'écouter une rumeur complotiste, hein, un truc, voilà, les reptiliens, ou on préfère entendre ça, des trucs quelque part singuliers, et puis on s'amuse hein, de ces choses-là, ouais. Que d'écouter la triste réalité.
Comment les médias peuvent-ils jouer un rôle de prévention ? Par rapport à ça.
Ben, ils ont un rôle très important et une grosse responsabilité. Bon, en général, ils jouent le jeu. La plupart du temps, pour les médias normaux, hein, on a de vrais journalistes qui sont capables d'instruire à charge et à décharge, qui sont capables d'analyser, hein, de discerner le normal de la normale, etc. Enfin, dans la limite de ce qui est possible de faire. Donc, en général, on a plutôt, sur les grands médias, de l'information valable. Bon, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des faux pas, c'est sûr, mais globalement, c'est relativement valable. Mais il faut faire des efforts pour le rester. Surtout que maintenant, c'est de plus en plus difficile de débusquer les fausses informations parce qu'elles sont très subtiles. Elles ressemblent vraiment à la science et à la réalité.
Je veux juste faire un commentaire. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça sur TikTok. Il y a les mom-talk, les mamans mormones, qui font des vidéos TikTok et elles prônent en quelque sorte la vie de maman mormone, du coup. Et j'ai vu aucune censure.
Ouais, sur Disney+, c'est même devenu une télé-réalité. On les suit dans leur vie parce que les gens sont à fond avec elles. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe dans la secte, quelles sont les lois qu'elles suivent, parce qu'elles se déclarent mormones modernes. C'est plus trendy, on va dire. Elles sont dans une nouvelle ère du mormon. Elles vendent leur vie comme quelque chose dans la société idéale, dans la vie moderne, en tant que mormon. Et il y a plein de restrictions. Et finalement, elles disent que on n'est pas obligé de se restreindre tant que ça pour être mormon et être un bon mormon. Et que du coup, tout le monde peut être mormon, finalement, si on suit leur façon de vivre.
Je les ai vus, je les ai vus parce que c'est envahissant sur Internet. Il y a deux jolies jeunes filles même, pas que des mamans, donc c'est vachement accrocheur pour la jeunesse. Voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent être intéressés, et surtout de voir des jeunes filles, elles ont l'air sympas, elles dégoulinent
de
gentillesse, bien chic, bon chic, bon genre, etc. Et ça envahit Internet, même pas des émissions, elles passent comme ça sur TikTok.
Oui, mais je crois que je les ai même vues dans des podcasts parler justement de leur relation, parce qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que les gens les suivent, parce qu'il y a des problèmes dans les couples. Comment est-ce que les mormons vont régler les problèmes dans les couples? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Jusqu'à où ils vont?
C'est la famille idéale, c'est-à-dire la sécurité absolue, l'amour parfait, la famille parfaite.
Oui.
C'est ce qu'on essaie de nous vendre. Il faut savoir que les mormons, il y en a deux grandes catégories. Il y a la catégorie radicale, où il y a la polygamie, les mauvais traitements des femmes, etc. Le rigorisme religieux et donc moral, mais grave, poussé dans les extrêmes limites. Donc ça, c'est les églises mormones, enfin minoritaires même dans l'Utah, l'État des États-Unis où ils sont majoritaires. Et puis il y a l'église mormone, celle qu'on connaît en France, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui est assimilable à du fondamentalisme protestant, comme les évangéliques, mais avec des singularités doctrinales quand même, parce que l'homme est un dieu en devenir. Donc c'est toute une doctrine très particulière quand même, mais bon, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent, moi ça me dérange pas. Donc jusque-là, ils ne sont plus polygames. Et puis ils acceptent aussi les personnes noires depuis les années 70 à la prêtrise. Donc ils ont évolué aussi, donc ça il faut leur accorder. Donc, il faut quand même donner 10% de ses revenus, quand même, ça fait partie de la loi, plus les offrandes surrogatoires pour différentes œuvres. Voilà. Mais concernant les émissions, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de journalisme. Le journalisme, c'est quand même faire la part des choses, essayer de se distancier du sujet pour rendre une information qui soit la plus juste possible. Là, c'est de la pub carrément. C'est sur Disney, donc on nous vend l'Amérique, quoi, avec la famille parfaite, mormone, qui vote à droite, etc. C'est ce qu'on nous vend, c'est le rêve, quoi. C'est le luxe, ou enfin la vie naturelle, en famille. Bien sûr, tout le monde en rêve, c'est juste de la pub, c'est juste de la pub.
Du côté un peu plus mormon dans ce qu'on peut dire mormon bien... pas plus radicale, mais moins moderne, comme elle se déclare les Mom Talk. On a une ancienne de télé-réalité, justement, française, qui est partie en Amérique et qui s'est mariée avec un mormon et qui actuellement est mormone totalement. On a eu, je ne sais pas si vous connaissez, Jerem Star, qui allait chez elle pour voir comment vivent des mormons. Et du coup, c'est sorti en épisode. Donc lui, il a détourné ça de manière dérisoire en se moquant gentiment d'elle. Elle ne l'a pas mal pris parce qu'ils avaient une bonne relation, donc c'était plus en tant qu'ami. Il se moquait un peu d'elle, de sa façon de vivre, en lui disant « c'est totalement à l'opposé de la vie que tu as eue ». Et elle disait « oui, mais aujourd'hui, j'ai trouvé ma foi, j'ai trouvé Jésus et c'est comme ça que je veux vivre ». Et des fois, elle allait vraiment du coup dans l'extrême et il lui en parlait. Il essayait de voir avec elle comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Mais de façon toujours pas très psychologique, on va dire, pas très...
assez cash, il était assez cash.
Il était plutôt assez cash, on peut le dire. Il était vraiment... il se moquait d'elle, mais gentiment, c'est vrai. Et du coup, on a pu voir, il y a une très grosse différence entre ce que les Mom Talk nous vendent comme la religion mormone.
Très libérale.
Très...
cool.
Oui, parce qu'elles font toutes les trends TikTok, elles sont tout le temps en groupe, du coup, c'est génial. En tant que Français, en tant que jeune, on va peut-être plus suivre ce que Jerem Star va nous montrer qu'il a fait chez Anaya que ce que les Mom Talk, qui sont plus du coup pour les Américains finalement, même si du coup Disney Plus nous le donne à disposition pour qu'on puisse s'intéresser à toute cette télé-réalité et tous les dramas qu'il y a autour du mormonisme. Du côté de Jerem Star, je pense que c'est mieux ça, la façon dont il s'immerse et comment il nous montre que le Mom Talk. Parce que vraiment, pour l'avoir vu, la saison 1, c'est vraiment... on nous vend ça comme un groupe d'amis, banal, hein, qui vont avoir leurs disputes, qui vont avoir leurs problèmes, qui vont du coup se rejoindre, qui vont avoir leur moment soda, parce qu'il n'y a pas d'alcool, bien sûr, sans caféine, parce qu'ils n'ont pas droit au café, bien sûr. Donc leur moment soda entre elles, où elles vont se détendre, où elles vont faire peut-être des jours de jeu pour les enfants. Et du coup, il y a vraiment ce truc de plutôt détente, plutôt mignon, plutôt cool, et plutôt où on peut se retrouver en elles. Que Jerem Star va nous montrer vraiment...
D'un côté, vous avez la pub et de l'autre côté, un travail journalistique.
Oui.
je caricature un peu, mais oui, voilà. Ça ressemble à ça.
Oui, c'est ça, en vérité, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que Jerem Star, il est arrivé après la saison 1 de Mom Talk et c'est vraiment super cool de pouvoir mettre vraiment... vraiment, en fait, voir réellement ce qui se passe chez les Mormons, finalement.
Et puis aussi, je pense qu'il y a une différence entre les Mormons, je ne parle pas de la secte, hein, des radicaux du mormonisme en Utah, mais il y a une différence, à mon avis, entre une famille mormone en France et une famille mormone aux États-Unis.
Elle habite aux États-Unis, du coup.
Ouais. Dans l'Utah, je pense que c'est quand même plus strict, plus vintage. dans l'Utah qu'en France. Ben, parce qu'il y a un contexte français aussi qui fait que même certains groupes sectaires, je pense à des groupes sectaires orientaux ou autres, ils arrondissent leurs angles en France. Parce qu'on est beaucoup plus vigilant pour les dérives, etc., qu'ailleurs.
On va continuer justement sur la protection, sur comment justement on peut aider les victimes. Et la première question sera justement, quelles sont les aides mises en place pour les victimes de dérives sectaires pour justement les aider à sortir de tout ça?
Alors, la France, là, se montre vraiment en tête du peloton puisqu'elle a créé une MIVILUDE, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui aide beaucoup, mais elle est submergée. C'est une équipe de 15 personnes pour faire face à plus de 4000 demandes par an, des conférences, des formations, l'édition aussi d'un rapport chaque année. Enfin, c'est un travail monstrueux. Et donc, la MIVILUDE, souvent, s'appuie sur les associations comme la nôtre. Hein. Il y a 4 grandes associations, puis il y en a quelques autres, mais il n'y en a pas tant que ça en France. Et donc, pour faire face à la demande, c'est-à-dire répondre aux situations de crise, aux questionnements aussi, parce que c'est bien qu'il y ait des questionnements, parce que si on se questionne avant, ça évite d'entrer dans des groupes à risque. Mais donc, c'est un travail énorme. Et puis donc, comme je le disais, il y a les associations. Donc, il y a 4 grandes associations en France. Hein. Il y a l'UNADFI, le CCMM, le GEMPI et le CAFES. Puis, il y a quelques petites associations, mais en gros, c'est ça, hein, comme Secticide notamment. Donc ça, je dirais, ce sont les bonnes volontés et l'État qui se mettent au service du public pour les aider, pour faire la prévention d'abord, et puis ensuite les aider en situation de crise quand un de leurs proches est dans un groupe sectaire ou pour aider une personne qui est en train de sortir d'un groupe sectaire.
J'aurais justement une question par rapport à la protection. Comment on protège justement quelqu'un pour pas qu'il rentre dans ces dérives-là?
Alors là, ça ne relève pas de nos compétences. Ça relève des compétences des familles. Puisqu'on ne peut plus échapper à l'Internet ou aux réseaux sociaux, eh bien, il faut éduquer ses enfants à bien gérer les réseaux sociaux, c'est-à-dire rechercher, se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vrai, par exemple? Et puis donc, les habituer à aller rechercher la contrepartie. Rechercher d'autres approches sur l'idée qui nous a séduites. Parce que ce qui nous séduit, en général, ce sont des billevesées. Hein. Ce sont les trucs qui nous attirent le plus, c'est les trucs les plus idiots, hein, comme l'affaire Brigitte Macron, etc. Enfin, c'est des trucs absurdes, mais ça plaît, évidemment, puisque c'est bizarre, c'est rigolo même, presque. Enfin, rigolo, pas pour ceux qui le vivent, hein, mais c'est... Donc, les gens vont être portés, et notamment les jeunes, plus sur ces trucs-là. Et donc, quand ils sont exercés dès l'enfance par leurs parents qui ont fait l'effort, je pense qu'ils peuvent être partiellement vaccinés, même si les aléas de la vie peuvent malgré tout faire de nous des victimes potentielles. Et puis, il y a nous. Bon, bien sûr, il y a l'école aussi qui participe, qui peut participer à ce travail. Hein. Et puis, il y a nous, C'est-à-dire on fait donc tout un travail de prévention, donc on essaie d'être très présent sur Internet, c'est pour ça qu'on fait des concours et festivals de courts-métrages sur les dérives sectaires, pour justement mettre des contenus sur Internet faits par des gens qui ont différents âges, différents milieux sociaux, donc différents regards sur la question, parce qu'on se méfie toujours de nous, hein, on ne veut pas non plus avoir que notre regard porté sur la question, et ça permet au moins de donner une chance à ceux qui vont sur Internet de tomber sur nous. On avait fait un sondage il y a 2 ans, je crois, à peu près. Il y a à peu près même pas 1% de contenu sur Internet, sur les différents réseaux sociaux, hein, Twitter, enfin X, Instagram. Dans le meilleur des cas, il y a 1% de contenu valable, c'est-à-dire scientifique, qui débunk, hein, que ce soit nous, les antisectes, ou les zététiciens, ceux qui s'occupent de la pensée critique, etc., pour 99% de contenu délirant. Pas aux sectaires, ou complotistes, ou pseudo-sciences, charlatans de la santé, etc.
D'accord.
Donc on a du boulot.
Comment sont aidées les personnes justement pour s'en sortir? Si par exemple on a remarqué des signes et on aimerait justement avoir une. Voilà, se faire et accompagner, on aimerait que quelqu'un se fasse accompagner. Est-ce qu'on peut faire appel à justement une structure ou quelque chose?
Et il y a 3 associations en France qui ont des succursales, donc l'UNADFI, le CCMM et le GEMPI, où on a des correspondants dans les différentes régions auxquels on peut s'adresser, parce que c'est mieux d'avoir la proximité quand même, hein, pour pouvoir rencontrer les gens. Donc on peut s'adresser à eux, puisqu'ils sont habitués à traiter de ce genre de situation.
Pour revenir sur ce que vous avez dit juste avant, ça serait bien aussi d'être éduqué vis-à-vis de ça sur les réseaux sociaux, qui prennent une grosse place maintenant dans notre société, et peut-être aussi dans les médias traditionnels, parce que comme vous avez dit au début, tout le monde peut être touché par ça. Donc pourquoi pas sensibiliser tout le monde du plus petit au plus grand âge, voilà, que ce soit dans les écoles, sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels, peu importe, de partout, qui pourrait toucher du coup du monde.
Alors nous, c'est ce qu'on fait toute l'année. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un journaliste de presse écrite, presse audiovisuelle ou internet, mm-hmm, qui me contacte parce qu'il cherche des témoignages.
Okay.
Alors j'ai quelques centaines de témoins potentiels qui peuvent répondre à leurs demandes. Donc j'oriente, ce qui permet déjà de nourrir les émissions télé, les émissions sur Internet ou la presse écrite. Donc, de faire la prévention. Et puis, nous, on fait des efforts quand même. Parce qu'on a répondu à l'appel à projet de la Mivilude en proposant un nouveau concours de court-métrage. Et le fruit de ce travail, c'est-à-dire tous les candidats qui ont reçu un prix, eh bien, seront publiés sur notre chaîne YouTube, sur nos différents réseaux sociaux. On sera repiqué à droite à gauche par... ça permet d'être présent, comme je le disais. Et d'ailleurs, le concours est ouvert, hein, tout le monde peut participer. Et puis donc on crée ensuite des événements. Après, il y a le festival où on présente les œuvres des lauréats dans un grand cinéma à Marseille. Mm-hmm. Donc il y a du monde qui vient, c'est filmé, etc. Donc ça permet de mettre en exergue le travail réalisé par les vidéastes. Et puis ensuite de diffuser. Ça fait partie de la prévention. Pareil, on a un journal trimestriel et c'est très délicat, hein, de publier sur des questions comme celle-là. On est toujours menacé de procès en diffamation, etc.
D'accord.
Donc c'est pas un petit boulot pépère, tranquille, on casse un petit peu les sectes et puis c'est bon. Non, il faut faire très attention à ce qu'on dit. On a les mêmes contraintes que les journalistes. Hein, où on dit quelque chose publiquement, il faut pouvoir le prouver. Mmh. Et on est face à des multinationales multimillionnaires, voire multimilliardaires. Que nous, petite assos avec 4 sous, on a intérêt à faire super attention à ce qu'on dit.
Mmh.
Et même ça, c'est pas suffisant. On vous fait des procès, même perdus, ils s'en foutent. Nous, on s'est déjà pris 5 procès, il y en a un qui est en cours. Bon, on a gagné, heureusement, les 4 précédents, mais c'est toujours la diffamation. Hein.
Donc ça devient dangereux, en quelque sorte, pour vous aussi.
Ce sont des procédures bâillons. Donc, j'irais, ceux qui ont de l'argent, les puissants, peuvent faire taire et nous obligent à modérer notre discours, notre prévention, parce qu'on n'a pas les moyens de prendre plus de risques juridiques. Donc elles ont toute liberté de nous baver dessus, de raconter n'importe quoi sur Internet, et on n'a pas les moyens de leur faire des procès.
Quelles ressources recommandez-vous aux familles ?
La première ressource, c'est d'éduquer ses enfants devant les ordinateurs, sur certains sites, hein, comme La Tronche en Biais, etc. Enfin, des sites qui peuvent susciter l'esprit critique. Et il y a différents sites hein, que vous trouvez sur notre site ou qu'on répertorie sur notre site. Comme ça, les parents qui ne connaissent rien viennent sur le site. Et il y a pour la jeunesse des vidéos, des chaînes vidéo, qui permettent déjà d'habituer les enfants à aller chercher ces contenus. Ça, c'est la première chose. Il y a l'école qui, à mon avis, devrait, dès le plus jeune âge, exercer les enfants à l'esprit critique. Et puis nous, comme on est très souvent sollicités par des particuliers, alors qu'ils nous disent, ben voilà, je donne un exemple, ma femme s'est fichue avec un gourou New Age ou autre, hein, et l'endoctrine les enfants. Donc ils ont divorcé, évidemment, parce que quand il y en a un qui rentre dans une secte, en général, derrière, il y a le divorce. Et se pose la question de l'éducation des enfants, hein, puisque la garde est partagée, en général, et comment faire ? Parce que celui qui est dans un groupe radical, idéologique radical, il va vouloir endoctriner parce qu'il a la vérité. L'autre, il ne le fera pas. Et puis là, on est en train de faire une formation en ligne, un MOOC, hein, Massive Open Online Courses, qui va permettre aux parents d'utiliser des petites vidéos de 1 à 3 minutes, celles justement qui avaient remporté le premier concours qu'on avait organisé en 2023, pour susciter un petit débat, un petit questionnement à leur sujet. Et les habituer à l'esprit critique, non pas devant des textes, des machins très scolaires, mais devant des vidéos, des petites vidéos adaptées à leur âge. Donc les gens peuvent suivre ces formations, avoir des certificats. Donc on en a une, c'est gestion des risques sectaires pour comprendre la problématique sectaire dans son ensemble, pourquoi on y rentre, comment on en sort, etc. Et quoi faire. On en a une autre sur la radicalisation islamique, parce qu'il y en a qui sont concernés, il faut savoir comment on gère ça. Et une autre sur la santé et les dérives sectaires, le point de vue juridique. Et puis là, cette quatrième, ça serait pour les parents, pour leur donner les ficelles de faire eux-mêmes cette éducation à leurs enfants, surtout quand leurs conjoints et leurs conjointes sont dans une secte. Parce que c'est sûr que les enfants, ils vont se faire endoctriner. Et ils ne peuvent pas critiquer la secte. Parce que dans une famille, c'est pas possible. On ne peut pas discréditer la maman ou le papa. Donc il faut, d'une manière indirecte, former les enfants, les vacciner idéologiquement contre l'enseignement sectaire du papa ou de la maman.
Oui, là on en vient à une question assez intéressante, c'est comment les sectes justement arrivent à infiltrer les familles, comment les sectes vendent la communauté comme une famille pour endoctriner les victimes.
Alors, un moyen très classique, je l'ai vécu moi-même parce que j'étais moi-même adepte d'un groupe, peut-être pas une secte mais un mouvement sectaire, il suffit qu'il y en ait un qui soit converti à un groupe sectaire pour semer la contagion dans sa famille. Ma contagion a atteint la moitié de ma fratrie. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Il y en a un qui est converti à n'importe quoi. Et donc, comme il est radical, c'est-à-dire il a toute la vérité, il a tout compris, etc., il va convaincre dans sa famille d'abord. Il y a des familles qui ont été entièrement converties. Alors, pour ça, on a trouvé un outil, nous, qui permet de protéger la famille. C'est ce qu'on appelle la vaccination idéologique. On fait venir la famille, les proches, et on leur fait un petit historique de la secte, les principes de manipulation, etc. Si bien que quand l'adepte les branche, donc on n'a pas peur d'aborder les questions théologiques, parce que c'est souvent là-dessus, puisqu'on est dans l'irrationnel, que les gens se laissent happer. Si on aborde les choses que sous l'angle rationnel, c'est bien, mais on n'a pas abordé le fond du sujet. Si la famille est catholique, par exemple, et que se fait brancher par des témoins de Jéhovah, et qu'on n'a pas abordé la question théologique, ça va être facile pour eux. Parce que les uns sont formés hein, dans la secte, ils ont des formations toute l'année, et donc, il va falloir leur dire, ben voilà, ils disent ça, mais voilà. Et pareil pour toutes les religions. Et puis aussi, bien sûr, les conseils pratiques, etc. pour la famille, la presse, les précédents judiciaires qui auraient eu. Et donc, nous, on a trouvé ce dispositif qui peut se faire en visioconférence et mieux en présentiel, puisqu'on a des locaux.
Oui. Là, vous parlez justement de familles qui se retrouvent justement contaminées, entre guillemets, on va dire. Quels sont les impacts quand justement ils arrivent à rentrer dans une famille, les impacts des sectes sur les familles ?
Alors, en général, quand un radical, même s'il est isolé dans la famille ou s'il en convertit quelques-uns dans la famille, ben, il va y avoir une scission dans la famille. Il y aura les adeptes du groupe de la famille et puis les autres. Et la séparation va se faire naturellement parce que les uns sont radicaux, ils ne sont pas tolérants, même s'ils prétendent être tolérants. Mais leur mode de croyance est tellement ostentatoire, tellement provoquant. Ils s'imposent tellement aux autres qu'il va provoquer ce dont je parlais, c'est-à-dire la réaction agressive de la famille. Hein, puisque la famille aura l'impression qu'on leur impose quelque chose, qu'on leur a changé leurs proches, qu'ils n'ont plus l'impression d'avoir affaire à celui qu'ils connaissent, mais à une nouvelle personne, donc ils vont s'insurger. Et donc ça va provoquer la rupture.
Alors, on a laissé la parole à certaines personnes sur notre Instagram en leur demandant de poser des questions s'ils étaient curieux sur les sectes. Et donc, on a eu quelques réponses et quelques très bonnes questions et on aimerait vous les poser si ça ne vous dérange pas.
Allez-y.
Comment en vient-on à adhérer à une secte qu'on trouvait répulsive au départ ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Alors déjà, ça ne va pas marcher avec tout le monde. Parce qu'il y a des sectes pour tous les profils. Donc, si on est dans une phase où on a besoin de soutien humain, d'amour, d'être entouré, parce qu'on n'a plus de famille, on n'a plus rien, on a divorcé, voilà, des choses comme ça, on sera beaucoup moins regardant sur la doctrine absurde. On sera moins attentif à ça et on sera plus attentif à l'attention, à la gentillesse, à l'amour et toutes ces choses-là. C'est ce qu'on appelle le profil affectif, hein, psycho-affectif. Et donc, quelque part, on dira, bon, ce qu'ils disent, ça ne tient pas la route. Mais on va suivre le groupe parce qu'ils sont tellement gentils, tellement accueillants. Ah, ils m'ont invité à manger, ils m'ont ouvert la porte de leur maison. Ce sont des choses qui touchent, ça. C'est beaucoup plus par l'affect, par l'émotionnel qu'on se laisse gagner que par l'intelligence. Et l'affect balaie notre rationnel. On est humain.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que des gens pourront... alors, bien sûr, ça ne se fait pas brutalement. Au départ, on va profiter de cette bonne ambiance, hein, comme ces jeunes sur Internet. Voilà, on aime Jésus, rejoins-nous, etc. Puis ils sont tout gentils, tout agréables. On n'y va pas pour leurs histoires de Jésus ou de je ne sais quoi. On y va parce que oh, bah, ça m'a l'air sympa. En plus, il y a de la musique. La musique rock, moderne, etc., du rap même. Enfin, donc, on y va. Ou ils ont même des lieux où on peut boire un coup, et puis ils sont là, ils sont sympas, ouais. C'est moderne, c'est jeune, c'est moderne, etc. Donc, c'est séduisant. Le reste, la doctrine, tout ça, on s'en fout. Mais arrivé à un certain moment, on est accroché affectivement. On n'a pas envie de perdre ça parce qu'ils sont gentils. C'est une communauté, c'est une famille. Et donc, mais la famille, c'est ce qui se dissout le plus actuellement. Il y a plus d'un couple sur deux qui divorce. Les familles sont séparées, sont déchirées. Les jeunes font de moins en moins d'enfants ou se marient de moins en moins parce que c'est tellement aléatoire. Et puis même professionnellement, c'est difficile d'être posé, etc. Donc il y a une vraie crise. Et là... C'est le paradis sur Terre, enfin en apparence.
Ouais, c'est la famille. Et donc c'est attirant.
C'est très attirant. Donc moi je comprends qu'il y ait des gens qui se laissent emporter parce qu'ils sont seuls. Des étudiants aussi des fois.
Ouais.
Ils partent de leur ville pour aller étudier dans une autre université, dans une autre ville. Ils se retrouvent seuls de chez seuls. Les seuls sympas qu'ils vont rencontrer sont des fondamentalistes protestants, des témoins de Jéhovah, des islamistes, des gens comme ça, ou des groupes New Age. Alors le groupe New Age, c'est plus difficile pour les jeunes parce qu'il faut casquer, hein, il faut payer, c'est coûteux, c'est plus rare. Même si sur Internet, par contre, ça devient de moins en moins rare. Mais en présentiel, c'est plus rare. Mais sur Internet, par contre, ils peuvent se faire brancher. Mais si on réfléchit bien, mais toutes les croyances religieuses ont quelque chose d'aberrant. Il y a des miracles dedans, il y a des croyances.
Oui.
Sauf qu'on s'y est habitué parce qu'elles sont culturelles. On ne reconnaît pas une secte au fait qu'elle ait des doctrines irrationnelles, puisque la croyance religieuse, forcément, elle a une part d'irrationnel, sinon ce serait une science. C'est plutôt l'excès.
Oui, justement, j'avais une question là-dessus. Parce que, comme je l'ai dit, on avait rencontré une personne violente et je me demandais si on pouvait préciser ça, la différence justement là où on va avoir des religions et on va avoir des dérivés justement sectaires, où se situe justement la différence.
Alors c'est là que je vais vous sortir mon catéchisme associatif, puisque chacun se fait une définition des sectes, c'est-à-dire des méchants, hein, entre guillemets. Voilà. Donc... En gros, hein, une secte, c'est un mouvement qui a des prétentions religieuses, spirituelles, thérapeutiques, holistiques, hein, c'est-à-dire qui comporte aussi l'aspect spirituel, qui nuisent, qui pourrissent la vie des gens, mais de manière récurrente, structurelle. Parce qu'autrement, lorsque c'est accidentel, on va dire que c'est une dérive sectaire. Et donc, on va trouver des dérives sectaires dans tous les mouvements religieux, quels qu'ils soient, secte ou pas secte, parce que les hommes sont comme ça. Ils produisent aussi du bullshit. Même s'ils ont des buts très honorables, etc., on ne pourra pas empêcher qu'il y ait des tordus, ça et là, ou des gens qui détournent les choses. Il y a même au sein des religions des groupes sectaires. Dans toutes les religions. Sauf que dans une religion, on aura, mettons, 10% de sectaires, c'est-à-dire de gens qui font du bullshit structurel et continu, voilà, qui sont nocifs. Donc il y aura 10%, et puis 90%, bon, ils auront de la religiosité assez souple et qui sera plus, j'irais, où la balance bénéfice-coût hein, d'avoir cette croyance est plus favorable que dans le groupe sectaire, où là, la balance bénéfice-coût, ça sera un coût énorme, exorbitant. Il faudra donner beaucoup d'argent, tout son temps, sacrifier sa famille, etc. Donc la différence, elle est dans le dosage. C'est-à-dire, d'une religion, on peut sortir des sectes. Mais globalement, dans la religion, puisque l'engagement sera plus pondéré, le sectarisme sera un taux beaucoup plus faible, sera à 10%. Tandis que dans une secte, il sera à 80-90% sectaire.
D'accord. Donc la ligne, elle est sur l'intégrité physique.
Même intellectuel, parce que si on a un discours qui génère une emprise mentale, un assujettissement, puisqu'il y a même une loi maintenant depuis 2024 qui condamne la mise en état de sujétion, eh bien non, ça sera pas physique, ça sera mental. Mais quand on a le mental, après on a le physique. On va pouvoir avoir des esclaves heureux. Hein.
Alors une autre question posée, c'est est-ce qu'on a une vie normale où le concept de vie en secte rentre dans nos préjugés ?
Bah, la vie en secte, c'est pas un préjugé, c'est un jugement. C'est un jugement qui se base sur des faits.
Ouais.
Donc, le préjugé, c'est de dire, lui, il croit des trucs bizarres. Toute croyance, si on prend de la distance, est forcément bizarre, puisqu'elle parle de choses qui sont pas vérifiables. Donc, c'est pas la bizarrerie qui pose problème.
Ouais.
C'est l'excès qui va être nuisible. Il y en a qui croient que la patte de lapin va leur porter bonheur. Donc, ils se trimballent avec un fer à cheval, une patte de lapin ou un autre truc. Si ça s'arrête là, que ça les rassure, c'est peut-être bizarre comme croyance. Mais moi, quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Mais j'en tirais beaucoup plus de bénéfices qu'autre chose, hein, je vous l'assure. Hein. Donc, il faut rester tolérant. Et puis aussi avoir de la distance. Se dire, attends, avant de pointer les croyances des autres, regarde un petit peu tes croyances à toi. Donc, c'est pas là le problème, hein, finalement. Sauf si la croyance est vraiment émane d'un groupe 100% sectaire, ce dont on peut dire c'est une secte, et non pas c'est un mouvement religieux dans lequel il y a des dérives sectaires, où il y a des micro-sectes. Ça veut dire qu'une doctrine qui, bah, genre l'ordre du temple solaire, hein, qui conduit au suicide collectif, ou en Afrique récemment cette secte évangélique, où ils sont morts par plus de 400 de par le jeûne, mais sinon, faut avoir le discernement, voilà, basé sur les faits. Sur les nuisances, c'est ça, la boussole, elle est là.
Ben merci beaucoup d'avoir répondu aux personnes qui ont posé ces questions. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sous l'emprise du lien. Si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes confronté à une situation d'emprise ou à un groupe sectaire, n'hésitez pas à vous tourner vers des structures spécialisées. Vous pouvez contacter le numéro vert 0800 000 537 ou consulter des associations et lieux d'accompagnement près de chez vous. Rappelez-vous, il n'y a aucune honte à demander de l'aide et des solutions existent pour retrouver votre liberté et votre sécurité. À bientôt pour un prochain épisode.
Sous l'emprise du lien.